Europe 1. Bienvenue et bonjour Jérôme Guedj.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence. Vous êtes député socialiste de l'Essonne, vous êtes également secrétaire national à la laïcité au parti, au PS. Dans l'actualité, monsieur Guedj, tout à l'heure, un discours à la Sorbonne comme en 2017 pour Emmanuel Macron sur l'Europe, c'est le discours Sorbonne 2. Est-ce que vous vous attendez à un discours du chef de l'État ou bien un discours de lancement du directeur de campagne de la majorité?
Le simple fait que vous posiez la question pointe l'ambiguïté du choix du moment. Évidemment, on a la campagne des élections européennes de Valérie Ayer, disons-le sans être discourtois, qui patine, qui n'imprime pas. Quelle est l'orientation? Quelle est la vision? Est-ce qu'elle a un autre objectif que de sauver le soldat Macron? C'est-à-dire avec, pour l'instant, un résultat qui s'annonce très problématique pour la majorité relative présidentielle.
Là, c'est Emmanuel Macron qui va essayer de sauver le soldat Ayer, apparemment.
Oui, mais en se sauvant lui-même, parce que il avait tellement, il y a 7 ans, fait de la question européenne un élément identitaire. Et moi, je fais partie de ceux qui avaient été séduits, ou en tous les cas, intéressés par le volontarisme exprimé, notamment les intuitions du président de la République sur la nécessité d'un réarmement, d'une souveraineté à l'échelle européenne. Le problème, c'est que en politique, faut pas se payer de mots. Les intuitions exprimées par Emmanuel Macron en septembre 2017... elles ont peut-être été vérifiées par le cours de l'histoire, mais les réponses volontaristes, elles, se sont fracassées sur le louvoiement intrinsèque.
Fracassées.
Oui,
c'est un échec
fracassé
sur toute la ligne, sur l'Europe,
prenons,
pour Emmanuel Macron.
Un seul point.
Allez-y.
Qui est essentiel. La question de la guerre en Ukraine a été un test évident sur la solidité de la position des Européens. Emmanuel Macron, en 2017, pointer la nécessité de la construction d'une Europe de la défense et d'une autonomie stratégique.
Ça mange le pas même... de pain, hein, c'est le serpent de mer,
oui,
de tout le monde.
Ouais. Sauf que 2 ans après, en 2019, alors même qu'il y a déjà eu depuis 2014 la Crimée et le début au Donbass, le même Emmanuel Macron et Raphaël Glucksmann dans son discours fondateur, en tous les cas très principiel hier à Strasbourg, l'a rappelé, le même Emmanuel Macron en 2019 dit « il faut que nous fassions un front commun » entre l'Union européenne et la Russie. Et on a vu ces atermoiements dans le positionnement par rapport à Vladimir Poutine. Même chose sur la question de la souveraineté, sur les questions énergétiques ou sur les questions industrielles.
Arrêtons-nous sur ce point, parce que vous avez utilisé le mot, et c'est ce que dit Emmanuel Macron, de souveraineté européenne. Très certainement, Jérôme Guedj, qu'Emmanuel Macron va insister sur ça tout à l'heure, sur la défense commune. Et en réalité, le mot derrière cette vision, c'est le mot de fédéralisme. Est-ce que vous le partagez? Est-ce que vous êtes, et vous le dites clairement, je suis pour une Europe fédéraliste et un saut fédéral?
Moi, je suis profondément européen. J'ai un problème avec l'orientation politique de la construction européenne. Vous savez, mon premier vote était pour le traité de Maastricht en 1992. Et j'avais 20 ans. Et à l'époque, le pari que nous faisions était de dire que l'intégration économique et monétaire va produire mécaniquement de l'intégration sociale et politique. Le problème, c'est qu'on a fait un marché, on a fait une monnaie, mais on a assumé dans les frontières de l'Union européenne une sorte de compétition de tous contre chacun, avec notamment le dumping social et fiscal, avec des fiscalités très disparates d'un pays à l'autre. Et surtout, on ne s'est pas armé au nom du libre-échange face au bloc, qu'il s'agisse des États-Unis ou surtout de la Chine.
Donc aujourd'hui, c'est important ce que vous dites. C'était un moment aussi où certains affirment qu'on s'est assis sur la volonté populaire. Est-ce que ce n'est pas, c'est une crainte et c'est une question, est-ce que ce n'est pas le but d'une Europe fédérale, c'est-à-dire d'effacer, d'annihiler finalement les nations?
Mais vous voyez, je vous ai dit, mon premier vote favorable, il était en 92, c'était un pari. Et 13 ans après, en 2005, j'étais un de ceux qui a fait campagne pour le non, au nom principalement de ce décalage et de cet échec. Et donc aujourd'hui, moi, on a besoin de plus d'Europe, mais d'une Europe qui assume des choix, par exemple, pour permettre une harmonisation fiscale et sociale à l'intérieur des frontières européennes et qui assume, par exemple, cette souveraineté, voire lâchons, ce qui était hier un gros mot, et moi je suis très content qu'il soit prononcé par Raphaël Glucksmann, par exemple, un protectionnisme écologique. Le fait de dire qu'avec des mesures miroirs, on impose aux produits qui rentrent dans les frontières de l'Union européenne le respect des mêmes normes de production.
Pardonnez-moi,
en manière
quand
sociale
vous allez rentrer dans le dur, vous verrez que ces clauses miroirs, pour les imposer, il faut être réveillé de bonne heure.
Mais restons
sur
la
réalité.
C'est l'échec d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire l'idée de ne pas avoir pousser ce volontarisme-là, mais on pourrait prendre d'autres sujets. On parle des salariés. Hier, on est allé au bout d'un processus d'adoption de la directive sur la protection, vous savez, des travailleurs détachés, des livreurs, des Deliveroo ou des chauffeurs Uber. Qui est-ce qui a essayé de s'aborder cette directive de protection qui leur permet justement de pas être le lumpen prolétariat des temps modernes, totalement exploité, et de pouvoir bénéficier de la protection liée au salariat? C'est Emmanuel Macron lui-même qui a sabordé, du fait de sa position gouvernementale,
ses positions. Le fossoyeur, si je comprends ce que vous dites.
Mais en tout cas, c'est un double discours qui est insupportable.
Et votre discours, par exemple, sur l'immigration. Plus d'Europe, c'est plus d'immigration pour vous. Est-ce que vous assumez aujourd'hui de dire, j'ai repris les mots il y a 10 ans, puisque vous parlez du passé, du Parti Socialiste, qui affirmait ceci, l'immigration est une chance et c'est un levier d'enrichissement culturel. Est-ce que vous le diriez aujourd'hui?
Mais en tous les cas, ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, enfin, je partage les mots, je refuse.
Aujourd'hui encore?
Mais évidemment, nous sommes une terre d'immigration, nous l'avons toujours été et nous continuerons à être une terre d'immigration. Faut arrêter d'entretenir une fiction qui consiste à dire que l'immigration zéro est le seul modèle. On peut avoir une possibilité,
on
peut avoir une discussion.
Non, mais oui, mais. Donc l'immigration est une chance, c'est important pour vous. Vous reprenez il y a 10 ans ce que disait le PS.
L'immigration contrôlée et encadrée, c'est une compétence des États dans le cadre européen. C'est pour ça que le pacte asile-immigration, qui a été présenté, adopté et que nous n'avons pas voté, précisément parce qu'il n'est pas efficace. D'abord parce qu'il pointe la question de l'asile, et moi je suis attaché à la question de l'asile, et parce que il ne s'attache pas à ces situations dramatiques de ceux qui meurent en Méditerranée ou dans la Manche, et il n'assume pas la construction de voies légales d'immigration dont nous aurons besoin dans le pays.
Mais est-ce que vous êtes en cohérence avec les Français? Par exemple, sondage ce matin, 67% des Français, c'est quand même une majorité assez nette, se disent favorables au nouveau projet de loi Jérôme Guedj qui vient d'être adopté en Grande-Bretagne. Ça a été des semaines de débats pour renvoyer les migrants illégaux et les demandeurs d'asile arrivés illégalement vers le Rwanda qui va donc gérer tout cela. 67% des Français. Et quand vous dites que c'est une chance?
Parce que, pardon de le dire, mais quand on va entretenir et alimenter cette logique un peu simpliste, voilà. Moi, je suis pour le respect du droit. Si on n'a pas des conditions de séjour réguliers sur le territoire national, elles doivent être vérifiées, contrôlées dans des délais dignes, notamment pour l'asile. Et il faut aussi respecter les conséquences. Mais le discours qui éclabousse tout ça, c'est de dire, derrière toi, on n'a pas besoin d'immigration. Les mêmes Français dont vous parlez, si vous leur dites, pour l'auxiliaire de vie qui va s'occuper de votre papa ou de votre maman, pour le serveur qui va travailler, pour le professeur sur le plateau de Saclay qui va enseigner et former vos ingénieurs, vous voulez absolument qu'il n'y ait pas d'immigration?
Les services d'urgence. Croyez-vous que ce discours tient encore avec un taux de chômage comme celui qui est le nôtre?
Mais nous savons aujourd'hui que nous avons des secteurs en tension pour lesquels, de toute façon, le recours à l'immigration, en plus de la mobilisation de l'ensemble des résidents réguliers français ou étrangers sur le territoire national, est nécessaire. Enfin, vous savez que la démographie, c'est aussi un facteur de puissance. Et considérer que se priver de cet apport migratoire, vous savez que l'année dernière, pour la première fois, il y a eu plus de décès que de naissances sur le territoire français.
L'immigration va venir combler le déficit.
Il s'agit pas de combler,
je défends
aussi le réarmement d'une politique nataliste, à condition que ce soit une politique sociale de soutien notamment aux familles, de soutien aux femmes qui doivent concilier vie professionnelle et vie familiale, mais de grâce, cessons d'alimenter un discours à ce point anxiogène sur ce qui n'est pas une opinion. C'est un fait de société, c'est un fait démographique qu'on va pas balayer d'un revers de la main.
Nous avons parlé d'Europe, d'immigration, vous avez parlé de protectionnisme écologique. De son côté, la France insoumise veut mettre surtout Gaza, Jérôme Guedj, au cœur de la campagne. La convocation par la justice de Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, fait couler beaucoup d'encre dans le cadre d'une enquête pour apologie de terrorisme. Est-ce que vous considérez que c'est une judiciarisation du débat que vous dénoncez, ou alors, sur un sujet aussi grave, LFI doit s'expliquer sur son communiqué et ses propos?
Moi, je suis très clair, Sedel Mabrouk. J'étais Charlie et je suis toujours Charlie. Je suis trop attaché à la liberté d'expression pour considérer que, dans le débat politique, chacun n'est pas libre de dire ce qu'il veut. Je me suis prononcé sur ce communiqué du 7 octobre. C'était une faute politique et morale. Je l'ai condamné et j'en ai tiré les conséquences. Mais je le combats sur le terrain politique et moral. Judiciariser et criminaliser, comme on le voit depuis plusieurs années. Les questions syndicales, les questions associatives, on l'avait vu avec les soulèvements de la terre.
Pour tous, pas seulement pour une personnalité de gauche.
Je le dis pour tous, voilà. Je n'aime pas cette espèce de chape de plomb qui consiste à détourner des outils de la lutte antiterroriste. Cette disposition sur l'apologie du terrorisme, c'était une disposition prise dans le cadre de la lutte antiterroriste et de venir pointer tel ou tel. Maintenant, après, j'assume le débat politique et je le fais y compris avec des gens qui n'ont pas hésité à me jeter en pâture quand je n'étais pas d'accord avec...
C'est pour ça que je démarrais par cette question avant d'aller sur...
C'est le débat politique.
Vous avez été une cible dans ce débat puisque Jean-Luc Mélenchon vous a dénoncé comme étant l'un des instigateurs de l'annulation de sa conférence. Allez, vous avez affirmé que vous n'aviez pas demandé cette annulation, mais vous avez dénoncé d'ailleurs très rapidement le fameux logo sur l'affiche de cette conférence qui, je le rappelle, nie l'existence d'Israël. Mais de quoi Jean-Luc Mélenchon, pour vous, Jérôme Gage, pour vous, pour votre histoire, pour votre engagement, pour vos convictions, se rend-il coupable en adoubant un tel logo ?
Ben, il entretient une ambiguïté, c'est le point que j'ai dénoncé. En effet, c'était mensonger de dire que c'était sous mon impulsion que cette conférence à Lille a été annulée. Je vous ai dit, je suis attaché au débat démocratique, et j'avais dit très clairement, chacun peut choisir les thèmes qu'il veut aborder. Mais souffrez que moi-même, je puisse dire que les ambiguïtés depuis le début de ce conflit porté par la France insoumise m'ont été insupportables. Le communiqué du mois d'octobre...
Il est ambigu encore ? Quelle ambiguïté il y a en réalité quand vous adoubez... Non mais je pose une question. Quand vous comparez le présent, vous adressez un parallèle pour être précise entre le président d'une université et Adolf Eichmann. Où est l'ambiguïté ?
Mais pour moi, tout ça, ce sont des fautes politiques et morales. D'ailleurs, plutôt révélatrices d'une fébrilité dans cette campagne électorale et surtout l'absence de nuances. Parce que voyez-vous, on veut me réhabiller comme d'autres dès l'instant où on n'est pas aligné sur les positions de la France insoumise, et on peut ne pas être aligné sur une partie des positions. Le point de départ était l'absence de condamnation claire du Hamas comme mouvement terroriste. Moi, je demeure sur la ligne qui n'a pas bougé. Voilà. Je pense d'abord que c'était une attaque terroriste. Je pense aujourd'hui encore à la libération des otages. Et dans le même temps, et bon sang, pourquoi on n'arrive pas dans ce pays à pouvoir dire ça et à dire on nous enjoint de choisir
vous
un camp.
Vous étiez dans le même mouvement, la NUPES.
Et je veux terminer ma phrase parce que sinon on va dire que je suis hémiplégique. Je veux pouvoir condamner le Hamas, dire qu'il est l'adversaire des Palestiniens et dire aujourd'hui que la riposte israélienne est insupportable.
Je vais vous poser. On va en parler, mais
il faut le dire extrêmement clairement que je combats le gouvernement de Benjamin Netanyahou, comme hier soir des Israéliens sont allés manifester devant son domicile pour dire ça suffit.
Vous avez été ciblé. Il y a des haters sur les réseaux sociaux quand même.
Je confirme. Voilà.
Vous poursuivez. Donc moi j'aimerais savoir par rapport à Jean-Luc Mélenchon où vous en êtes aujourd'hui. Vous me dites des ambiguïtés. Est-ce que c'est votre gauche et comment vous le qualifiez tout simplement ?
Écoutez, la conséquence. J'espère que tout le monde l'a vu. La conséquence de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est que la coalition politique que nous avions mise en place en juin 2022 n'existe plus. Voilà, j'ai été un de ceux, et franchement, je n'en tire aucune gloriole, mais c'était pour moi épidermique et principiel.
Mais pourquoi
de constater...
avoir attendu ce temps ? Vous ne vous doutiez pas de telles ambiguïtés ? Moi, c'est parfois, votre étonnement peut étonner. C'est-à-dire,
écoutez,
vous ne vous doutiez
savez,
pas que
vais,
sur
je,
Israël, Jean-Luc Mélenchon avait de telles positions ?
Non, pour la raison simple, c'est que je...
Vous n'avez jamais discuté avec vos alliés de
non,
ce
mais,
sujet-là.
Bah, sur ce sujet-là, je vais vous prendre un seul exemple.
Ça fait 50 ans que le conflit existe.
Oui, mais sur ce sujet-là, Jean-Luc Mélenchon lui-même, dans une conférence qu'il avait faite en janvier 2024, a reconnu que ce n'était pas un sujet sur lequel il allait beaucoup travailler. Je vais vous prendre qu'un seul exemple. Jean-Luc Mélenchon a sorti un livre juste avant le début du conflit. Dans ce livre, parce que moi je lis attentivement les écrits politiques des uns et des autres, il n'y a pas une ligne sur le conflit israélo-palestinien. Il n'y a pas une seule ligne sur le conflit israélo-palestinien.
Vous aviez un doute sur
cette
position ?
Non mais, en tous les cas, moi la position qui d'ailleurs était celle qui était dans notre accord politique, était le soutien à une solution à deux États, qui ne passait pas par cette logique de conflictualisation et de déséquilibre. Moi j'avais été heurté par ce communiqué, mais vous voyez... ils ont fait le choix de faire de ce thème-là un sujet de la campagne des élections européennes. Voilà. Pourquoi pas ? Mais donc du coup, ils sont enferrés dans une logique de surenchère, de clivage et donc du coup de délimitation. Alors que dans le débat, encore une fois, comment on rend audible la nécessité de la protection des civils palestiniens ? Et voyez, quand je dis ça, Je le dis à tous les endroits. Quand je vais le dire à une manifestation pour demander la libération des otages, je me fais siffler par une partie du public qui considère que dire ça, c'est un crime de lèse-majesté et c'est une atteinte à la défense de l'État d'Israël. Est-ce qu'on peut avoir de la nuance dans le débat politique? Est-ce qu'on peut avoir une position équilibrée? Moi, je suis un universaliste républicain. Et pardon de le dire, entre Meir Habib et Rima Hassan, eh bien, je pense qu'il y a un chemin, qui est un chemin de la raison,
Vous les mettez dans des positions, opposées, mais sur le même plan?
Ben, en tous les cas, dans le niveau de crispation identitaire et d'impossibilité d'avoir une écoute, les Israéliens eux-mêmes sont traversés par ce débat politique. Et nous, il faudrait qu'on soit campé sur des positions à ce point heurtées. Moi, j'essaye d'avoir cette position où, je le redis, la colonisation en Cisjordanie, c'est une faute politique, c'est la guerre telle qu'elle est menée aujourd'hui, les dizaines de milliers de victimes palestiniennes me heurtent, me blessent, me révulsent matin, midi et soir. Et je suis pour la protection de l'ensemble de ces civils. Je suis pour que Israël, comme l'ensemble de ses partenaires le lui demandent, ne soit pas embarqué dans une fuite en avant pour des mauvaises raisons et qu'on garde la perspective d'une solution politique à deux États. Mais je suis dans le même temps pour reconnaître que le Hamas ne peut pas être un interlocuteur. Il continue à détenir des otages aujourd'hui. Il a engagé le 7 octobre.
Vidéo qu'on a découvert hier sur un otage
et surtout le 7 octobre, il a envoyé ce message-là d'élimination de l'existence même de l'État d'Israël à travers la barbarie des attaques qui a été faite. Et donc, toute complaisance ou ambiguïté à son endroit, forcément, me heurte.
Et vous appelez à la nuance sur
En général, j'appelle
positions.
À la nuance dans le débat politique, mais la nuance n'est pas une pusillanimité.
C'est pas un manque de courage.
On peut avoir.
Au contraire.
C'est surtout pas un manque de courage. Alors, au contraire, c'est très paresseux d'être à ce point clivant.
Nous avons beaucoup parlé de sujets très importants. Il y en a un auquel il faudrait consacrer, j'allais dire, des journées. Des journées, c'est ce que vous allez faire. C'est très important. La fin de vie. Je vais quand même rappeler que vous connaissez bien ce sujet, Jérôme Guedj. Vous faites partie de la commission spéciale sur la fin de vie à l'Assemblée. Il y a beaucoup de questions à ce sujet. On va les laisser pour une prochaine fois, l'occasion d'un grand rendez-vous que nous devions faire ensemble. Mais sur la date, c'est prévu pour le 27 mai. Et le 6 juin, est-ce que sa date est tenable aujourd'hui?
Alors, il y a deux bonnes nouvelles. On a un texte, enfin, le gouvernement qui nous dit les parlementaires vont pouvoir l'amender, le faire bouger. On a une bonne base de départ. Et moi, je m'en félicite. Et tel que les travaux ont débuté, sous la présidence d'Agnès Firmin-Lebaudo et avec le rapporteur général Olivier Falorni, on va, je l'espère, pouvoir travailler intelligemment. Je l'ai dit dès la première séance, le fait d'avoir choisi du 27 mai au 6 juin, il y a un télescopage avec le calendrier des élections européennes et c'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Et donc,
merci.
Moi, j'avais proposé tout simplement qu'on le décale. Ce sera pas
pour
le cas. Et j'espère qu'on va garder la sérénité nécessaire pour nous permettre de légiférer dans
la
durée.
Merci, Jérôme Guedj.
Merci
à votre grande interview.